suite de direct sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous, bienvenue sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril, l'émission en direct. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir et envoyer des SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Tous les samedis après Vibra SOS, on revient un peu dans le sérieux, parce qu'avec Vibra SOS, on est toujours en train de danser, de chanter toutes ces musiques que nous propose Enrique, que je salue. Mais là, on va revenir un petit peu dans le sérieux de l'actualité scientifique qui n'est pas véritablement bien optimiste. On va parler politique, hein. On va parler peut-être plutôt d'aspect législatif et de ce qui s'est passé ces derniers jours avec des entreprises agroalimentaires. On va parler également des JO, parce qu'il y a quelques articles scientifiques qui parlent des Jeux Olympiques. Alors on va pouvoir s'y arrêter également. Et puis il y a quand même quelques bonnes surprises également en médecine. On verra tout ça et je pense que si on a le temps, on pourra également évoquer un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Tous les samedis entre 12h et 13h, on parle un petit peu de tous les sujets d'actualité scientifique, ce qui nous permet un petit peu de savoir ce qui va nous attendre dans quelques temps dans notre quotidien. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les avancées de la recherche dans différents domaines dans le monde entier. On parle un petit peu, on va dans de très nombreux pays dans cette émission toutes les semaines. Et comme ça, ça nous permet de voir un petit peu quels sont les sujets actuels, quels sont les défis technologiques, les défis médicaux que l'on doit relever. Et on voit très bien depuis un certain temps que le fil rouge derrière tout ça, c'est très souvent le développement durable, hein, ce dérèglement climatique qui perturbe beaucoup de choses. Et on évoquera ça, bien sûr, dans cette émission 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir par SMS. Aujourd'hui, donc, le 27 avril, l'inauguration de l'exposition universelle de Liège, c'était en 1905. Je ne sais pas si on parle encore maintenant, s'il y a des expos universelles qui sont prévues. Tiens, il faudrait que je me renseigne, parce que j'ai l'impression qu'on en entend moins parler. On entend très bien parler des Jeux Olympiques, mais les expositions universelles, je n'en sais rien. En tout cas, en 1905, c'était celle de Liège. La création de l'INSEE, c'était en 1946. Après la guerre, le 27 avril 1946, c'est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. L'INSEE qui existe encore et qui est l'un des organismes qui a toujours conservé son nom, est donc créé en 1946. Bon anniversaire. Et la réalisation en 1968 de la première transplantation cardiaque en Europe, c'était précisément en France, à l'hôpital de la Pitié à Paris, 13e arrondissement, et c'était par le professeur Christian Cabrol, le 27 avril 1968. Les naissances. Ah, tiens, là au moins, un nom qui nous dit quelque chose. Samuel Finlay Breeze Morse. Ah, Morse, oui, ok, on voit qui c'est. C'est un scientifique américain, il est né le 27 avril 1791. Il a développé un télégraphe électrique et il a développé également un alphabet. Tous les deux portent son nom. En 1811, après des études à l'université Yale où il obtient son diplôme, eh bien, il travaille chez un éditeur à Boston, tout en se consacrant à la peinture. Parce qu'il n'a pas été que scientifique, en fait, il avait d'autres passions. Il entreprend même un voyage à Londres pour suivre des études artistiques auprès de la Washington Allston. Il obtient, 2 ans plus tard, la médaille d'or de sculpture de la Société des Arts. Quand même un parcours assez intéressant. Et il revient aux États-Unis, nous sommes en 1815, il va peindre des toiles, plutôt des toiles historiques. Il va peindre également des portraits et on considère quand même que c'est avec un certain talent. Et en 1826, il fonde à New York la Société des Beaux-Arts et il devient le premier président pendant presque une vingtaine d'années. Donc voilà, ce parcours de Samuel Morse, on ne connaissait pas nécessairement ce côté artistique chez lui. Il va revoyager encore en Europe, notamment en France et en Italie, pour y étudier les Beaux-Arts. Nous sommes dans les années 1829-1830 à peu près. Et il va revenir encore aux États-Unis en 1832, et sur le navire qui le ramène aux États-Unis, il va concevoir comme ça l'idée d'un télégraphe électrique après une conversation sur l'utilisation de l'électroaimant et les travaux d'un scientifique qui s'appelle Ampère. Il discute de ça avec un géologue sur le navire et partir de là, il va concevoir cette idée de ce télégraphe électrique. Samuel Morse, qui est donc né à 27 avril 1791. Décès le 27 avril 1984, il y a donc 40 ans, le décès d'Émile Gagnan. Il était un ingénieur français spécialisé dans les gaz. Il est notamment connu pour avoir été le co-inventeur avec le commandant Cousteau du détendeur à la demande, ce que l'on appelle en fait le scaphandre autonome, et cette invention elle est connue sous le nom de régulateur essentiellement dans le monde, mais c'est aussi le nom de ce qu'on appelle l'aqualung, c'est-à-dire un poumon aquatique. C'est un petit peu tous ces noms qui ont été choisis, identifiés pour justement commercialiser d'une façon un peu efficace ces inventions, et notamment cet inventeur du détendeur à la demande, donc du scaphandre, avec le commandant Cousteau. Il est décédé un 27 avril 1984, et il s'agit d'Émile Gagnan. Voilà pour l'éphéméride de ce jour. Alors, on va parler, voilà, je suis en train de chercher un petit peu dans l'ordre, parce que quand on regarde un petit peu et que je prépare cette revue de presse, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles qui s'entrechoquaient au niveau de l'actualité. Pas nécessairement scientifique dans le sens où on n'est pas nécessairement dans des laboratoires de recherche, mais on est quand même sur des sujets qui concernent la santé, et notamment le Sénat qui a annoncé il y a quelques jours le lancement d'une mission parlementaire sur les suspicions de contamination des eaux minérales naturelles du groupe Nestlé. L'idée, annonce ce communiqué, c'est de faire la lumière sur les défaillances de l'État, sur les politiques publiques en matière de contrôle et de traitement des eaux en bouteille. Des pratiques ont été cachées au grand public malgré l'information du gouvernement, et nous pouvons soupçonner ce dernier d'avoir essayé de minimiser les conséquences pour les industriels. Si tout cela est avéré, nous souhaitons le mettre en lumière. C'est ce qu'affirme la sénatrice écologiste de Paris. Elle s'appelle Antoinette Gull, qui a été nommée rapporteure de cette mission d'information, et la constitution de cette mission flash qui va rendre ses conclusions d'ici le 15 juillet fait suite aux révélations par plusieurs médias, notamment Radio France et Le Monde, de l'existence d'une note de l'agence sanitaire l'ANSES qui recommandait à l'État, je cite, « une surveillance renforcée des sites de captage des eaux du géant suisse Nestlé Waters ». Cette note date de la mi-octobre. L'AFP en a obtenu une copie, et cette note soulève notamment, je cite, « un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des eaux minérales », et cette note relève également de multiples constats de contamination microbiologique d'origine fécale. Alors cette note intervient alors qu'une enquête préliminaire pour tromperie est ouverte par le parquet d'Épinal dans les Vosges à l'encontre donc du groupe Nestlé Waters, groupe qui est soupçonné d'avoir eu recours à des traitements illégaux pour purifier ces eaux minérales. Alors que beaucoup de Français sont attachés à l'eau en bouteille, quitte à la payer parfois 100 fois plus cher, il y a un problème important d'information du consommateur, de transparence et de finalité de l'action publique. C'est ce qu'explique donc cette sénatrice Antoinette Gull en conférence de presse. Donc cette mission d'information a été validée il y a quelques jours par la Commission des affaires économiques du Sénat, et elle pourrait se doter en juillet des pouvoirs très renforcés de commissions d'enquête si nécessaire. Le groupe socialiste au Sénat avait également demandé ces derniers jours le lancement d'une commission d'enquête sur le sujet, alors que le groupe Nestlé Waters France a assuré à l'AFP que, je cite, « toutes les eaux minérales naturelles mises sur le marché en France peuvent être consommées en toute sécurité ». Il faut noter donc qu'en France, que Nestlé est propriétaire des marques Vittel, Contrex et Par, qui sont puisées et embouteillées dans le département des Vosges, et est également propriétaire de Perrier dans le Gard. Donc ça, c'était la première information, le lancement de cette mission parlementaire du Sénat concernant ces eaux minérales contaminées. Et il y a au niveau de l'actualité, parfois toujours, des, je ne sais pas comment on appelle, des coïncidences ou un petit peu Tout se passe un peu en même temps, parce que ce lancement de cette mission parlementaire, elle date à peu près du 10 ou du 11 avril, donc on va dire qu'il y a à peu près 3 semaines, et après donc ces révélations sur un potentiel risque sanitaire lié aux eaux minérales naturelles du groupe Nestlé, eh bien le groupe annonce avoir détruit au moins 2 millions de bouteilles de la marque Perrier à la suite d'une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un des 7 puits de son usine du Gard. Il y a eu un arrêté préfectoral qui n'a pas encore été rendu public en dépit des obligations légales. Il y a 2 autres puits qui sont désormais exploités pour produire dans des conditions un peu floues, nous dit France Info, une nouvelle gamme de boissons gazeuses. Alors ce mercredi, donc Nestlé Waters France, qui est la filiale du leader mondial de l'agroalimentaire, a donc annoncé à l'AFP avoir, par précaution, détruit plusieurs lots de bouteilles habituellement livrées en magasin. Une destruction qui concerne au moins donc 2 millions de bouteilles. Et Nestlé qui assure que toutes les autres bouteilles sur le marché peuvent être consommées en toute sécurité. Alors concernant la contamination de ces bouteilles d'eau minérale, Nestlé se contente d'évoquer, je cite, une déviation microbiologique ponctuelle qui serait apparue à la suite des très fortes pluies liées à un événement de type méditerranéen récent dans le Gard. En clair, c'est la tempête Monica qui avait frappé le sud-est de la France pendant le week-end du 10 mars dernier. Alors de son côté, le préfet du Gard annonce avoir mis en demeure l'entreprise de suspendre sans délai l'exploitation d'un des puits de son usine de Vergès dans le département du Gard, où est mise en bouteille l'eau de Perrier. Ce captage aurait en effet, je cite toujours le communiqué du préfet, présenté un épisode de contamination à partir du 10 mars et sur plusieurs jours par des germes témoins d'une contamination d'origine fécale, mais aussi par des germes d'une autre espèce, une espèce Pseudomonas aeruginosa. Il est aussi indiqué qu'une contamination des eaux conditionnée à partir de ce forage ne peut être exclue et peut faire courir un risque pour la santé des consommateurs. Ça, c'est donc le communiqué de la préfecture. Alors, le puits dont l'exploitation a été suspendue se trouve à Vergès. C'est là où est historiquement puisée l'eau de la marque Perrier, qui a été créée en 1903. Or, les ressources en eau exploitées par Nestlé à Vergès font l'objet de contaminations régulières, et ce depuis des années, tout comme celle de l'autre usine d'eau minérale Nestlé en France, dans les Vosges, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc, en octobre dernier déjà, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alertait le gouvernement dans une note qui est restée confidentielle à propos d'un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des produits finis, c'est-à-dire les bouteilles qui sont destinées aux consommateurs. Et concernant donc le site de Vergès, les experts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire évoquaient la présence de bactéries coliformes nombreuses, de dégradation de la qualité microbiologique des eaux, et les experts signalaient la présence de pesticides et de métabolites de pesticides dans tous les puits de forage. Leur somme, en fait, ça peut dépasser les seuils réglementaires. Et dans un courrier qui était présent et annexé à ce rapport, l'Agence régionale de santé Occitanie relevait pour sa part que l'usine Perrier était confrontée à, je cite, une contamination bactériologique régulière sur au moins 5 des 7 forages autorisés. Des contaminations qui contraignent à des traitements qui ne devraient plus permettre la production d'eau labellisée eau minérale naturelle, parce qu'à partir du moment où on est sur des traitements, on n'est plus nécessairement sur une notion d'eau naturelle. Un risque qui est donc en réalité ne date pas d'hier, puisque depuis 2021, lors d'un rendez-vous confidentiel à Bercy, nous explique France Info, l'entreprise Nestlé avait admis avoir recours à des traitements interdits par la réglementation dans le but de purifier des ressources en eau contaminées par des bactéries et des pesticides. Le gouvernement qui avait découvert la tromperie a décidé de n'informer ni la justice ni les autorités européennes sans tenir compte de la réglementation qui avait alors commandé un rapport à l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est toujours l'article de France Info que je vous livre. Ce rapport n'excluait pas lui non plus un risque sanitaire en cas de retrait de traitements interdits. Les traitements en fait qu'on utilise, ce seront des filtres à charbon actif, ça va être aussi des filtres UV. Ils sont retirés par la multinationale dans le but de pouvoir continuer à vendre ces produits sous l'appellation eau minérale naturelle. Donc en clair, soit on enlève tous ces systèmes de traitement et l'eau est contaminée, mais elle est naturelle, soit on met tous ces systèmes de traitement, l'eau est un peu plus propre, entre guillemets, mais elle n'est plus naturelle. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Officiellement, Nestlé affirme depuis le début de l'affaire avoir toujours garanti la sécurité sanitaire de ses produits et elle se veut rassurante, hein, cette multinationale qui a annoncé en janvier dernier avoir fermé ses captages les plus problématiques et avait engagé, je cite, un plan de transformation de son usine de Vergèze sous le contrôle des autorités. Certains puits ayant été détournés pour produire non plus de l'eau minérale naturelle, mais une marque, la marque Maison Perrier, qui est une nouvelle gamme de boissons gazeuses. Et puis en ce moment, il y a vraiment pas mal de publicité sur cette nouvelle boisson gazeuse. On utilise même l'actrice de la série Emily in Paris, qui s'appelle Lily Collins, dans cette campagne de publicité que vous avez peut-être vue. Donc, c'est peut-être pas le moment, en fait, pour Nestlé d'arrêter tout ça. Un arrêté préfectoral qui date de fin 2023 fixe en effet les conditions de production de ces nouvelles boissons destinées à la consommation, pour lequel en fait la réglementation elle est moins stricte que pour les eaux minérales naturelles. Quand on veut produire une eau minérale naturelle, les conditions sont beaucoup plus strictes que si on veut produire une eau, j'allais dire, marketing, entre guillemets. Cela sans jamais évoquer les contaminations microbiologiques et physico-chimiques des ressources en eau, et bien l'arrêté autorise donc la société Nestlé à utiliser deux de ces captages dans le but de produire une, je cite, « boisson pétillante ». Donc vous avez bien compris que quand on parle de boisson pétillante, on n'est plus du tout dans l'idée d'une eau minérale naturelle. Mais il y a certaines formulations de l'arrêté qui interrogent sur l'étanchéité des canalisations et c'est un peu particulier parce que l'idée quelque part, c'est de dire qu'on utiliserait peut-être les mêmes lignes de production pour conditionner soit de l'eau minérale naturelle, soit ces fameuses boissons gazeuses. Bref, cet arrêté n'a toujours pas été publié au registre des arrêtés préfectoraux en dépit des obligations légales, nous rappelle France Info, c'était jeudi. La préfecture interrogée à ce sujet affirme ne pas comprendre et renvoie vers l'Agence Nationale de Santé Occitanie. Bien sûr, on se renvoie la balle, qui à ce stade n'a pas répondu aux interrogations des journalistes de France Info, tout comme le ministère de la Santé. Bref, tout le monde se renvoie la question et comme ça, on n'a pas de réponse. En tout cas, la directrice de l'information à Foodwatch, qui a porté plainte contre le groupe Nestlé, regrette que les informations sur cette affaire arrivent au fil de l'eau, pas mal comme expression. Depuis le début, Nestlé ne respecte pas la directive européenne et il est très clair dans la directive que dès lors qu'il y a une contamination, une pollution sur les eaux, il est absolument interdit de les mettre en bouteille et même de les commercialiser. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé du tout, explique donc cette directrice de l'information à Foodwatch. Foodwatch qui a donc porté plainte contre le groupe Nestlé. Donc on suivra bien sûr l'actualité qui devient maintenant non plus une actualité scientifique mais une actualité judiciaire concernant le groupe Nestlé qui a donc annoncé ce mercredi avoir détruit des 2 millions de bouteilles de Perrier par précaution suite à une contamination bactérienne. Voilà, ça c'est les deux premiers points que je voulais évoquer dans cette actualité scientifique plutôt judiciaire et législative. On va écouter un petit titre et on va revenir toujours sur l'actualité de une actualité un petit peu législative également. Et on va parler des FAS, hein, les PFAS, les polluants éternels, parce que là également, au niveau du Parlement, il y a eu des prises de décision qui ont été annoncées il y a quelques jours. On va revenir sur ça juste après Patrice. Sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct.
Got one eye. Some soul storming must be the benefit of the global warming. Realize that there ain't no harming. Blind and soul and the little farming. Soul farming. There's a
Soulstorm, c'était Patrice sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes en direct aujourd'hui, 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct, 06 95 065 026. On revient sur l'actualité française et l'actualité législative, ou en tout cas liée au Parlement. Les députés ont approuvé, c'était le 4 avril dernier, en première lecture, une proposition de loi écologiste visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, les polluants éternels, mais en excluant toutefois les ustensiles de cuisine après une forte mobilisation des fabricants. Les PFAS sont massivement présentes dans la vie courante. Les poêles, hein, tous ces poêles en téflon, tout ça, c'est il y a des PFAS dans ces poêles. Les emballages alimentaires, les textiles, les automobiles. Ces PFAS, ce sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, et elles doivent leur surnom de polluants éternels à leur cycle de vie très long et pour certaines à leurs effets néfastes sur la santé. Alors, cette proposition de loi a été adoptée sans difficulté en commission donc début avril, et elle avait fait l'objet de vifs débats entre la gauche et le camp présidentiel et entre le gouvernement et la majorité également. Il a finalement été approuvé à l'unanimité avec 186 voix pour et 0 contre. L'ensemble donc des textiles seront concernés par l'interdiction à compter du 1er janvier 2030. Cette adoption est une première belle victoire sur le chemin de la sortie inéluctable des FAS. La mobilisation citoyenne a porté ses fruits. C'est ce qu'a annoncé François Veillerette, qui est le porte-parole de Génération Future. Alors, l'implication de l'interdiction aux ustensiles de cuisine qui était initialement prévue dans le texte, eh bien, cette application a été supprimée par les députés en séance. Il y a plusieurs élus du Rassemblement National, les Républicains et la majorité qui se montrent sensibles aux arguments des fabricants concernant les risques pour l'emploi. La majorité avait proposé de repousser l'interdiction concernant ces produits de 2026 à 2030. Un report jugé trop important pour les écologistes qui ne voulaient pas aller au-delà de 2027. La majorité a répliqué en supprimant purement et simplement l'alinéa, ce qui a fait vivement réagir à gauche. Et donc pas mal de petits noms d'oiseaux qui ont circulé. Encore une fois, la majorité alliée aux Républicains et au Rassemblement National aura cédé au lobby du fabricant Seb au détriment de la santé des Français. C'est une honte, c'est ce qu'ont réagi les députés écologistes, tandis que Génération Future a déploré, je cite, une victoire du lobby de la poêle à frire. On a perdu 2 millions d'emplois industriels ces dernières décennies en France. Qui va nous faire croire que tout ça, c'est la faute de l'écologie? C'est ce qu'a lancé dans l'hémicycle le député François Ruffin de la France Insoumise. Comme pour l'amiante, le patronat nous prédit une catastrophe industrielle si les FAS sont interdits. C'est ce qu'a fustigé la CGT dans un communiqué. Alors à l'inverse, une porte-parole du groupe SEB s'est dit rassurée que la science et la raison l'aient emporté aujourd'hui dans l'hémicycle. Il faut dire que le fabricant d'articles de cuisine avait sonné l'alarme début avril sur la menace qu'une telle loi ferait peser sur les 3000 emplois de ces usines à Rumilly en Haute-Savoie et à Tournus ou Tournus, je ne sais jamais si on dit Tournus ou Tournus, c'est dans la Saône-et-Loire. En tout cas, ces usines fabriquent notamment ces poêles Tefal en téflon. Une casserolade avec plusieurs centaines d'employés avait été organisée mercredi à quelques pas de l'Assemblée. Et toujours au niveau politique, comme Gabriel Attal le 3 avril, eh bien le ministre de l'Industrie Roland Lescure a défendu devant les députés la nécessité d'agir au niveau européen pour interdire certains PFAS en s'inscrivant dans le cadre du règlement européen sur les produits chimiques. Des restrictions ont déjà été mises en place en Europe et des interdictions seront prononcées dans de brefs délais. C'est ce qu'a argumenté donc le ministre Roland Lescure en écartant donc l'idée d'une interdiction générale. En particulier en ce qui concerne le PTFE, le polytétrafluoroéthène, qui est donc utilisé pour les poêles et qui est, je cite, très vraisemblablement un des PFAS qui sera jugé comme non dangereux par l'Agence européenne des produits chimiques. C'est ce qu'explique le ministre. Donc, on ne sait pas, il le sait avant l'Agence européenne, il sait que ça va être bon. C'est assez étonnant, ça, les ministres qui parlent avant les experts. Mais enfin bon, c'est un avis personnel. En tout cas, le rapporteur Nicolas Thierry avait, lui, rappelé le caractère massif de l'exposition aux PFAS et le sérieux risque pour la santé en soulignant que le projet de restriction européen est nécessaire mais pas suffisant. Et il a rejeté une stratégie consistant à distinguer les bons et les mauvais PFAS, soulignant que leur persistance suffit pour les classer comme des substances préoccupantes. Parmi les autres mesures adoptées dans l'hémicycle, eh bien, l'application du principe pollueur-payeur avec une taxe qui vise les industriels. Et cela, malgré l'opposition du gouvernement, eh bien cette mesure a été adoptée. Et puis également l'obligation de contrôler la présence de PFAS dans l'eau potable. Le texte qui pourrait désormais être repris par les sénateurs écologistes dans le cadre de la journée qui leur est réservée le 30 mai prochain était le premier des 8 textes présentés par les députés dans le cadre de leur niche parlementaire, c'est-à-dire l'occasion pour eux de pouvoir présenter des textes de loi. Et ce sujet-là des PFAS va pouvoir se poursuivre au niveau parlementaire, évidemment. Et la question qu'on se pose, et donc il y avait un article de Futura qui était un petit peu en parallèle, pour savoir si ces PFAS, on les retrouvait dans les fruits, et si oui, est-ce qu'ils contiennent ces PFAS à des taux inquiétants. C'est la question de cet article de Futura Science qui présente donc ces faces en nous disant que on a mis en évidence leur présence dans l'eau potable à des taux alarmants dans 31% des sources d'eau analysées au niveau mondial. Et c'est un petit peu toute l'alimentation qui est passée au crible, notamment les fruits et les légumes. Et il y a le comité consultatif sur les résidus de pesticides. C'est le ministère de l'Environnement britannique qui a ce comité et qui a analysé plus de 3300 échantillons de nourriture en 2022 pour détecter les résidus de pesticides différents. Et les résultats ont été confiés à une organisation britannique qui a pu communiquer sur ce sujet et qui a constaté que les fraises étaient les plus touchées, avec 95% des échantillons testés eh bien, contenaient des pesticides PFA, donc on retrouve toujours ces PFAS, hein, ces polluants éternels. De tels pesticides ont également été trouvés dans des échantillons de raisins, dans plus de la moitié des échantillons de cerises et d'épinards et de tomates, et dans au moins 15% des échantillons de pêche, de concombres, d'abricots, de haricots. Donc on trouve un petit peu tous les fruits et les légumes que l'on consomme. On a donc détecté ces composés perfluorés. Alors la question, c'est de savoir si les taux sont inquiétants. Le rapport donc de ce comité consultatif du ministère de l'Environnement britannique indique bien que 56% des échantillons testés contenaient un résidu de PFA. Ce résidu était inférieur à la limite maximale de résidus autorisés dans les aliments par la loi et un seuil dépassé par seulement 2% des échantillons. Donc ça veut dire qu'il y a un taux qui ne dépasse pas le taux réglementaire en fait. De ce fait, le rapport ne fait état de pratiquement aucun risque pour la santé des consommateurs. Sauf que ce dernier omet la contribution de nombreuses autres voies d'exposition potentielles tels que les emballages alimentaires en plastique, parce que tout à l'heure on vous a dit que les PFAS, on les retrouvait dans ces emballages alimentaires, l'eau potable également, on a dit qu'il y avait des PFAS dans l'eau potable, et aussi une large gamme de produits ménagers. Et donc on déplore le manque d'alternatives pour les consommateurs en regard du nombre croissant de preuves qui établissent un lien entre les PFA et des maladies graves telles que le cancer. Il est urgent de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les exclure de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'explique donc ce comité consultatif. L'organisation demande au gouvernement d'accroître leur soutien aux agriculteurs pour les aider à mettre fin à leur dépendance aux produits chimiques et à adopter des alternatives plus sûres. Oui, si c'était possible, on pourrait le faire. En attendant que les autorités mettent en place des mesures à la hauteur de l'enjeu sanitaire, est-ce qu'il faut se priver de fraises ? La réponse est un peu modérée, étant donné que presque tous les produits de notre quotidien sont contaminés. Arrêter de les consommer, c'est quand même difficilement envisageable, d'autant plus que nos organismes sont très certainement déjà contaminés à des taux plus ou moins élevés, et ce pour une durée plus ou moins longue. Et donc dans cet article de Futura, il y a ce commentaire du docteur Shubhi Sharma. Personne n'a donné son accord pour être exposé à ces produits chimiques nocifs, mais nous devons maintenant vivre avec cet héritage toxique pour les décennies à venir. Quoi qu'il en soit, il est en notre pouvoir de consommateurs à informer, de faire des choses éclairées pour la santé. C'est ça en fait où on en est actuellement, c'est dans le stade de l'information, et à partir de là, chacun pourra agir. Voilà pour ce qui est de l'information législative, judiciaire, pour l'actualité qui touche la médecine dans ces cas-là. Il est 12h35, on va écouter un autre titre et on va continuer à développer la revue de presse de l'actualité scientifique, et on reviendra sur l'annonce de la mort du prix Nobel de physique Peter Higgs, qui est décédé il y a quelques jours. On va se souvenir un petit peu de tout son parcours juste après Kings of Convenience sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Some take care of you. Fever, you got fever, driving around on your scooter in Christmas time with funky clothes that don't take care of you. Now you feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. Fever, you got fever. Same one who now is gone and can't take care of you. Fever, I got fever too, of a different kind. It makes me want, it makes me crave to be with you most every second of the day. I feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm.
Fever, pardon, j'avais pas appuyé sur le bon bouton de Kings of Convenances. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Il est 12h40 si vous souhaitez réagir par SMS 06 95 065 026. On a donc fait une grande page dans cette émission sur toutes ces annonces au niveau de l'actualité, de ces bouteilles contaminées, de ces poêles à frire qui nous contaminent. Et on va passer donc maintenant à l'annonce du décès le 8 avril dernier du prix Nobel de physique Peter Higgs, qui est décédé. Il s'est éteint paisiblement à son domicile le lundi 8 avril à la suite d'une courte maladie. C'est ce qu'a indiqué l'Université d'Édimbourg. Il a passé une part importante de sa carrière. Il était né en 1929 à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Il vient donc de nous quitter à l'âge de 94 ans. Son nom est devenu célèbre dans la communauté des hautes énergies à partir des années 1970 et surtout au début des années 80, quand il est devenu clair que ce qui est aujourd'hui appelé le modèle standard de la physique des particules prenait son essor avec ses premières confirmations expérimentales et ses premiers prix Nobel, notamment pour la découverte au CERN, c'est le Centre d'études de la recherche nucléaire, la découverte du boson W puis du boson Z qui est prédit par le modèle qui avait été généré, qui unifiait la force nucléaire faible avec la force électromagnétique électromagnétiques. On va pas rentrer dans les détails. On est sur de la physique nucléaire et je vous dis toujours que par le média radio, je m'aventure très peu dans ce domaine-là parce que c'est quand même assez, assez complexe. En tout cas, ces découvertes et cette unification de ces modèles n'est possible que grâce à la théorie qu'avait proposée Peter Higgs en 1964 pour expliquer les masses des particules. Une théorie similaire avait aussi été proposée par d'autres scientifiques. Higgs avait cependant été le premier à publier et à indiquer de façon explicite que sa théorie prévoyait l'existence d'un nouveau boson cousin des pions pour les forces nucléaires, ou encore également au niveau de la physique du solide, elle expliquait la supraconductivité. Le boson de Higgs a finalement été découvert au CERN, c'était en 2012. On en avait parlé dans cette émission, hein. Alors, des premières émissions de Biotine, on avait parlé de la découverte du boson de Higgs. Le comité Nobel a considéré que seuls les travaux de Peter Higgs, de Robert Brout et de François Englert valaient le prix Nobel. Robert Brout était décédé avant 2012, donc ce sont finalement Peter Higgs et François Englert qui ont été nobélisés en 2013. Et pour cette raison, on parle parfois du boson de Brout-Englert-Higgs et parfois on parle du boson de Higgs. C'est quand même très souvent le boson de Higgs que l'on découvre dans les publications. Le mécanisme donc découvert par ces trois scientifiques, qui suppose l'existence d'un nouveau boson mais qui va bien au-delà de cela, a aussi stimulé le développement des théories inflationnaires en cosmologie. Donc on voit très bien qu'il y a des applications qui sont... dans différents domaines. Peter Higgs était de l'avis de tous très humble et il ne pensait pas qu'il verrait sa théorie vérifiée de son vivant. Selon lui, de nos jours, avec les contraintes de publication imposées aux jeunes chercheurs, il n'aurait pas été recruté pour un poste permanent dans une université. Lui-même, à son actif, il avait publié qu'une dizaine d'articles, ce qui est très peu par rapport à la majorité des chercheurs en poste actuellement. Et en son temps, le prix Nobel de physique, Louis de Broglie, avait aussi expliqué qu'il pensait que s'il était né plus tard, il n'aurait pas fait sa découverte, il n'aurait pas eu de poste pour des raisons similaires à Peter Higgs, comme quoi la quantité ne fait pas nécessairement toujours la qualité, bien évidemment. Alors, à la suite de son décès, la directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, a donc déclaré, je cite, « Outre ses contributions exceptionnelles à la physique des particules, Peter Higgs était une personne très spéciale, une figure extrêmement inspirante pour les physiciens du monde entier, un homme d'une rare modestie, un grand professeur et quelqu'un qui expliquait la physique d'une manière très simple et pourtant profonde. Une partie importante de l'histoire et des réalisations du CERN lui est liée. Je suis très attristé et il me manquera énormément. » C'est ce qu'explique donc la directrice générale du CERN suite à l'annonce donc du décès du prix Nobel de physique, Peter Higgs, décédé à l'âge de 94 ans, début avril. Alors, là, une information un petit peu plus réjouissante quand même. Oui, parce que ça arrive parfois dans cette émission. On a cette greffe d'un rein de porc qui a été réalisé sur un humain. Il y a quand même une pénurie d'organes disponibles pour la transplantation qui est un problème majeur, cette pénurie. Eh bien, l'hôpital général du Massachusetts a franchi un pas monumental en annonçant la première transplantation réussie d'un rein de porc génétiquement modifié chez un patient humain. Cette intervention chirurgicale, elle a eu lieu le 16 mars, elle a duré 4 heures et elle ouvre de nouvelles perspectives pour augmenter le nombre d'organes disponibles, ce qui réduit ainsi l'attente pour les patients. Alors, préalablement à la greffe, le rein de porc a été modifié génétiquement pour améliorer sa compatibilité avec l'organisme humain, pour pas qu'il y ait de rejet, en clair. La modification génétique a été réalisée grâce à une technologie qui permet d'éliminer les gènes du porc susceptibles de causer un rejet et d'intégrer des gènes humains qui vont favoriser l'acceptation de l'organe. La transplantation a eu lieu chez un patient souffrant de diabète de type 2 et d'hypertension. Il avait déjà été greffé une première fois avec un rein humain. Le greffon a tenu 5 ans. Le succès de cette transplantation est le couronnement de décennies de recherche et d'innovation dans le domaine de ce qu'on appelle la xénotransplantation. Xéno, c'est la notion d'étranger. Donc on transplante quelque chose qui est étranger, étranger en termes d'espèce, et cette avancée pourrait significativement réduire le temps d'attente pour les patients nécessitant une transplantation rénale. Ça offre une alternative vraiment viable à la pénurie d'organes humains. Actuellement aux États-Unis, il y a plus de 100 000 personnes qui sont en attente d'un organe. Chaque jour, il y a 17 personnes qui perdent la vie faute de transplantation possible. Et donc là, voilà, c'est assez révolutionnaire, cette annonce d'un rein de porc qui a été greffé avec succès chez un humain. C'était donc il y a un mois, et bon, on aura peut-être un petit peu de suite sur cette cette découverte, pas une découverte, pardon, de cette opération, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, assez étonnante et assez révolutionnaire. Ce qui me fait penser, alors j'ai pas son nom sous les yeux, mais ça me fait penser qu'on a appris par contre le décès il y a quelques jours de la personne qui avait été transplantée au niveau du visage, donc j'ai plus son nom, mais voilà, il est décédé il y a quelques jours, et voilà, il avait eu une greffe de visage et quand même ça avait quelque part transformer sa vie, bien évidemment. On écoute un dernier titre avant de nous quitter. Ça va être Alicia Keys sur l'antenne de Graphite. Et on terminera encore avec quelques articles d'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite. Qu'est-ce qu'on est bien ? Best of Me, c'était Alicia Keys sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Vous avez même la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de l'émission et de toutes les émissions de Graphite d'ailleurs. Et la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent en ce moment en direct, 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir par SMS aux différentes informations qu'on a développées dans cette émission aujourd'hui. On va terminer avec la NASA. La Terre va-t-elle bientôt être envahie par des bactéries mutantes ultra résistantes qui seraient venues de la Station Spatiale Internationale? Alors ok, c'est un petit peu vite dit, mais les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Il y a des chercheurs qui ont identifié la présence d'une bactérie qui s'appelle Enterobacter bugandensis à bord de la Station Spatiale Internationale, et malgré l'environnement très contrôlé et plutôt hostile de la station, hein, parce qu'il y a une microgravité, il y a des niveaux élevés de dioxyde de carbone, il y a une radiation solaire qui est accrue, eh bien ces micro-organismes ramenés par les astronautes depuis la Terre réussissent à s'y adapter. C'est quand même assez extraordinaire. Cela avait d'ailleurs été le cas en 2018 puis en 2021. Ces bactéries avaient suscité beaucoup d'inquiétudes, mais c'était finalement révélé inoffensif pour l'humain. La seconde avait même montré d'intéressantes propriétés protectrices pour les plantes, utiles pour la culture dans l'espace. Par contre, pour cette nouvelle bactérie, Enterobacter bugandensis, eh bien, c'est une autre histoire. Cette bactérie naturellement présente dans notre microbiome intestinal a elle aussi muté pour s'adapter à l'environnement spatial. Et lors de la mission Microbial Tracking, eh bien, les scientifiques en ont isolé 13 souches présentes dans divers endroits de la station spatiale internationale. Et problème, les analyses ont permis de les classer dans la catégorie très fermée de ce qu'on appelle les escapies, c'est-à-dire des agents pathogènes extrêmement résistantes à toutes les formes de traitement et responsables de nombreuses infections nosocomiales. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Question donc dangerosité, pardon. Eh bien, cette bactérie Enterobacter bugandensis, je vais y arriver, elle n'est pas en reste puisqu'elle serait notamment en mesure de provoquer une grave infection du sang. De quoi donc préoccuper la NASA? Et c'est très sérieux, il y a pas mal d'articles cette semaine qui ont évoqué cela, d'autant que l'environnement spatial pourrait jouer sur la virulence de la bactérie. Dans leur étude qui a été publiée dans la revue Microbiome, eh bien les chercheurs pointent donc la nécessité de protéger la santé et la sécurité des astronautes, un conseil d'ores et déjà suivi par l'agence spatiale américaine qui travaille au développement de mesures préventives afin d'éviter une épidémie dans l'espace et une prolifération sur Terre. Voilà, la NASA s'inquiète donc des mutations d'une bactérie à bord de la station spatiale qui pourrait se répandre sur Terre. C'est l'article donc de Futura qui va clore cette émission. J'avais envie de finir sur quelque chose d'anxiogène. Je crois que je l'ai bien réussi dans cette émission. Ça n'a pas nécessairement toujours été des informations plaisantes, on va dire, mais voilà, c'est aussi ça, l'actualité scientifique. On se doit de traiter tous les sujets. On continuera avec la NASA la semaine prochaine. Et puis, alors, j'ai pas du tout eu le temps d'aborder les différents articles qui traitent des Jeux Olympiques. C'est pas grave, on verra ça samedi prochain, parce qu'on se retrouve samedi prochain à 11h, à 12h pardon, 11h c'est Vibrasoise, à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook, notamment, qui vous permet de suivre l'actualité de votre radio curieuse préférée. Et sur le 94.9, pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net sur Internet, vous avez 24 heures sur 24. De quoi vous satisfaire avec les nombreuses émissions. Et l'animateur fantôme qui va prendre la suite avec pas mal de musique. Je vous retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis rendez-vous samedi prochain. À bientôt. Au revoir.